Frères et sœurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cet évangile du lavement des pieds au cours de la scène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples avant la Passion, a commencé par deux précisions que nous faisait l'évangéliste. Deux précisions dont la lumière va accompagner tout l'épisode. La première précision dévoilait que l'heure de Jésus était venue. L'heure de Jésus est venue. La seconde précision annonçait la trahison de Judas à la suggestion du diable. Étonnamment, l'une et l'autre de ces précisions trouvent leur sens dans l'amour. L'heure de Jésus est l'ultime révélation de l'amour rédempteur de Dieu pour l'homme, de l'amour en tant qu'essence même du salut. Nous l'avons entendu, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens dans le monde, allait les aimer jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et puis de l'autre côté, la trahison de Judas, dont l'intention s'est affermie, montre quant à elle que le péché, la mort, la destruction de soi-même, étonnamment, provient aussi de l'amour, mais d'un amour défiguré, détourné de ce qui mérite vraiment d'être aimé. C'est l'amour de l'argent qui pousse Judas à trahir Jésus. Tel est le mystère de ce jour unique, sa liturgie imprégnée à la fois de lumière et de ténèbres, de joie et de douleur, nous met devant un choix décisif dont dépend la destinée éternelle de chacun de nous. Et ce soir, je voudrais contempler avec vous ce choix entre les deux amours. Voilà ce que je voudrais faire avec vous en ce jeudi saint. Vous êtes toujours avec moi ? Oui. Jésus accomplit à la dernière scène l'aboutissement de ce grand mouvement d'amour divin qui avait commencé avec la création du monde. Ce grand mouvement d'amour va maintenant atteindre sa plénitude dans la mort et la résurrection de Jésus. Dieu est amour, nous révèle saint Jean dans sa première lettre. Et le premier don de l'amour, de la communion de l'amour de Dieu, ce fut la vie. Nous en avions parlé déjà au dimanche des rameaux. Et cette vie, jaillie de l'amour, était essentiellement une communion. Pour vivre, l'homme devait se nourrir, manger et boire, communier au monde en fait. Le monde, d'une certaine manière, c'était l'amour divin devenu nourriture, devenu corps de l'homme. Étant et vivant, c'est-à-dire communion au monde, l'homme devait être en communion avec Dieu, faire de Dieu la finalité et la substance de sa vie. Dieu était à la fois celui vers qui nous étions orientés et celui dont nous tirions notre force. Communier au monde reçu de Dieu, au jardin de la Genèse, était vraiment communier à Dieu. L'homme recevait sa nourriture de Dieu et, la transformant en son corps et en sa vie, il offrait le monde entier à Dieu. Il le transformait en vie en Dieu, en vie avec Dieu. Et nous voyons que c'est ce que nous pouvons vivre encore tout simplement dans des choses parfois toutes simples. Quand vous organisez un bon repas pour votre famille ou vos amis, qu'est-ce que vous faites ? Vous utilisez les bons produits de la terre, pas simplement pour nourrir ceux qui sont là, mais pour vivre un acte de charité, pour vivre un temps de paix, un temps de joie ensemble. Il y a un désir de communion, à la fois nous pouvons louer le Seigneur pour les bons produits de la terre, et nous louons le Seigneur pour la communion qui jaillit de ce temps passé ensemble. À la fois nous communions au monde, mais nous communions au monde pour vivre l'amour, pour vivre la communion avec Dieu. La vie jaillie de l'amour de Dieu était appelée à être communion au monde pour être communion à Dieu. L'amour de Dieu avait donné la vie à l'homme. L'amour de l'homme pour Dieu transformait cette vie en communion avec Dieu. C'était le paradis. La vie était vraiment eucharistique par l'homme. Par son amour pour Dieu, toute la création devait être sanctifiée et transformée en sacrement universel de la présence divine. Et l'homme était le prêtre de ce sacrement. Nous pouvons le comprendre encore, parfois à travers des gestes tout simples, même lorsque un petit enfant, par exemple, pour dire merci, va faire un dessin et va l'offrir à la personne qu'il veut remercier. Que fait-il à travers cet acte-là ? À la fois, peut-être s'est-il émerveillé des couleurs à sa disposition, mais voilà qu'il fait de son dessin un acte de gratitude, un acte d'amour. Voilà que ce papier et ces crayons de couleur sont devenus dans ses mains, dans son intention, dans sa réalisation, un acte d'amour qui dit l'amour de Dieu pour le prochain. Au paradis, l'homme était le grand prêtre de la création. Il était prêtre de cette création qui devenait sacrement moyen de communiquer, de recevoir Dieu. Mais par le péché, l'homme a perdu cette vie eucharistique. Il l'a perdue parce qu'il a cessé de regarder le monde comme un moyen de communion avec Dieu et sa vie comme une eucharistie, une adoration et une louange. L'homme s'aima lui-même et le monde pour lui-même. Il se fit centre et finalité de sa propre vie. Il s'imagina que la faim, la soif, c'est-à-dire notre état de dépendance dans lequel nous trouvons notre vie par rapport au monde, que cette faim, cette soif pourrait être satisfaite par le monde lui-même, par la nourriture comme telle. Mais le monde et sa nourriture, s'ils sont dépouillés de leur sens premier de sacrement, d'accès à Dieu, de moyen de communion avec Dieu, s'ils ne sont pas accueillis avec la faim et la soif de Dieu, autrement dit, si Dieu n'est plus là, alors tous ces moyens du monde ne peuvent plus donner la vie, ni satisfaire aucune faim, car ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. L'homme a détourné son amour de Dieu, l'homme a détourné son amour de celui qui est l'unique objet de tout amour, de toute faim, de tout désir, et l'homme est mort. Car la mort est l'inévitable décomposition de la vie, coupé de son unique source, de ce qui lui donne son sens, Dieu. L'homme trouva la mort là où il avait espéré trouver la vie. Sa vie devint une communion avec la mort, parce qu'au lieu de transformer le monde en communion avec Dieu, par la foi, l'amour, l'adoration, l'homme se soumet entièrement aux choses du monde. Il cesse d'en être le prêtre pour en devenir l'esclave. Et par ce péché de l'homme, le monde entier est devenu un cimetière où les peuples condamnés à mort communient à la mort, assis dans les ténèbres de la mort. L'homme a trahi, mais Dieu est resté fidèle à l'homme. Le Dieu de bonté n'a pas oublié l'œuvre de ses mains. Une nouvelle œuvre divine commence, celle de la rédemption, celle du salut, et elle s'accomplit dans le Christ, le Fils de Dieu, qui pour redonner à l'homme sa beauté première et rendre à sa vie son caractère de communion avec Dieu, se fit homme, prit sur lui notre nature avec sa soif et sa faim, avec son désir et son amour de la vie. En Jésus, la vie a été révélée, donnée, acceptée, accomplie comme une parfaite Eucharistie, une totale et parfaite communion avec Dieu. Le Christ a rejeté la tentation fondamentale de l'homme, vivre de pain seulement, et a révélé que c'est Dieu et son royaume qui sont la véritable nourriture, la vraie vie de l'homme. Et cette parfaite vie eucharistique remplie de Dieu, cette vie donc divine et immortelle, il en fait don à tous ceux qui acceptent de croire en lui, c'est-à-dire ceux dont la vie trouve en lui, en Jésus, tout son sens, tout son contenu. Telle est la signification très riche de la scène, ce dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jésus s'offre comme nourriture véritable de l'homme, parce que la vie manifestée en lui est la vraie vie. Ainsi, le mouvement d'amour qui commençait au paradis, avec un divin « prenez et mangez, trouvez votre subsistance dans les arbres que je vous donne », parce que se nourrir est la vie de l'homme, atteint en Jésus sa plénitude, avec son « prenez et mangez, ceci est mon corps », parce que Dieu est la vie de l'homme. La dernière scène recrée le paradis de délices, restaure la vie en tant qu'Eucharistie et communion. Alors cette heure d'amour extrême est aussi celle de la plus extrême trahison. Judas quitte la lumière de la chambre haute pour s'enfoncer dans la nuit. Il faisait nuit, dira saint Jean. Pourquoi part-il ? Il aime, répond l'Évangile, mais il aime l'argent, l'argent symbolisant ici tout amour perverti et dévoyé qui conduit l'homme à trahir Dieu. C'est un amour volé à Dieu, et Judas est donc un voleur de l'amour de Dieu. L'homme, même si ce n'est plus Dieu ou en Dieu, continue d'aimer, de désirer, car il a été créé pour l'amour, et l'amour est sa nature même. Mais c'est alors une passion aveugle, autodestructrice, et la mort en est le terme. Et nous connaissons vraisemblablement, chacun de nous, ces passions qui peuvent nous faire brûler de convoitise au point d'ignorer nos responsabilités ou ceux qui nous aiment. C'est parfois des choses toutes simples. C'est cette rage qui peut me saisir parce qu'on me demande de m'arracher à mon écran. C'est cette complaisance parfois à la médisance pour la gloire d'un bon mot devant un auditoire. C'est parfois des choses plus graves. Mais voilà que je me rends compte que dans mon quotidien, je peux choisir, comme Judas, d'aimer le monde pour le monde et plus comme chemin vers Dieu. Chaque année, quand nous plongeons dans la contemplation de ce jeudi saint, la même question cruciale nous est posée. Est-ce que je réponds à l'amour du Christ ? Est-ce que j'accepte que Jésus devienne ma vie ? Ou bien, est-ce que je suis Judas dans sa nuit ? Seigneur Jésus, en ce jeudi saint, lave encore les pieds de tes disciples. Lave encore les pieds de notre âme, que nous ayons part au royaume avec toi. Viens laver nos âmes, en particulier si au cours de ce carême, nous avons, comme Judas, ouvert notre cœur aux suggestions du diable. Simon-Pierre, intercède pour nous. Comme tu as appris à le faire, que nous chassions toute réticence à être purifiés par le Christ. Nous choisissons d'aimer comme Jésus. Que notre communion au monde redevienne une communion à toi, Dieu notre Père. Nous choisissons d'aimer comme Jésus. Amen.